Audiolib présente Le réveil des ténèbres. La guerre des dragons, tome 1. De Raymond E. Feist. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet. Lu par Thierry Janssen. Une fois encore à Jessica, qui a été pour moi bien plus qu'une fille peut l'imaginer. Prologue. Les ténèbres reviennent. Dans un lieu lointain, une ombre frémit. Puis elle tourna sur elle-même et généra un cercle complet autour d'un point focal tourmenté. Continuant sa rotation, elle gagna de la vitesse et pulsa très régulièrement. Un lourd battement, silencieux dans le vide. D'abord un tremblement, puis presque un séisme. La pulsation s'accéléra, puis se dilata soudain, avant de se contracter, comme si une formidable exhalaison de rage muette venait d'envoyer des vibrations dans toutes les directions. Tel un écho, cet avertissement se répandit dans le multivers et atteignit les êtres connectés à toutes les énergies magiques. L'attention des détenteurs du pouvoir fut détournée de leur tâche en cours. Regardant de tous les côtés, ils tentèrent d'identifier l'étrange titillement à la lisière de leur conscience. Magnus s'éveilla, s'assit dans son lit et inspira à fond. Afin d'atteindre le niveau requis de lucidité et de vivacité, il patienta un moment, dont il tira parti pour se débattre contre ce qu'il avait arraché au sommeil. Lentement, une sensation de mauvais augure, l'impression d'avoir été touché par une sombre entité étrangement familière, se dissipa à la manière d'un rêve qui part en lambeaux et dont on ne se souviendra jamais. Magnus hocha presque imperceptiblement la tête, puis il tendit l'oreille, comme s'il écoutait quelque chose. Mais tout était tranquille à présent, à part les sons étouffés de la nuit finissante et de l'approche de l'aube, des cris d'oiseaux dans le lointain, le soupir d'une brise légère et le doux bruissement des feuilles dans le jardin. Une fois debout, Magnus enfila sa robe de bure noire coutumière, glissa les pieds dans ses sandales, saisit son bâton en chêne, se réjouit du poids et de l'équilibre parfait de l'objet, comme un prolongement de son bras, puis ouvrit la porte. Hors de ses appartements, il traversa le grand jardin intérieur, un endroit dont on s'occupait avec soin après des années de laisser-aller et où il adorait s'attarder pour méditer paisiblement sur la vie. Alors qu'il sortait de la Villa Beata, via un des multiples grands portails, il éprouva un puissant besoin de s'asseoir près d'une fontaine au centre du jardin et de réfléchir. Mais cette envie fut balayée par la nécessité de découvrir l'origine du trouble qui l'avait réveillé. Très ancienne, la villa avait été agrandie plusieurs fois. Pourtant, Magnus vivait dans les appartements jadis occupés par ses parents, un grand carré de pièces qui entourait le jardin, sa chambre étant attenante à une vaste bibliothèque personnelle héritée de son père. D'autres bâtiments se dressaient autour de celui-là, et à l'est, sur une colline, on en trouvait de plus grands encore. Des bibliothèques, diverses salles, et même des cuisines et des ateliers. Bien que la villa ait jadis abrité une foule de gens, son père l'avait laissé se délabrer, car c'était là que son épouse et le frère de Magnus avaient péri durant une terrible bataille. Des années après le décès de son père, Magnus avait enfin trouvé le courage de réparer les dégâts. Tournant la tête vers l'est, il vit que le ciel commençait à s'éclaircir. Les prémices du jour à venir, une parenthèse de calme et d'attente, qui serait bientôt suivie par la fausse aube, les premières lueurs diurnes et enfin le lever du soleil. Une heure grise, en somme, le moment préféré de Magnus. Comme si le monde retenant son souffle marquait une pause avant que les angoisses et les tracas de la journée reprennent leurs droits. Magnus inspira à fond et se régala du goût légèrement iodé de l'air matinal. Puis il se dirigea vers la colline occidentale, un endroit d'où il admirait souvent le coucher du soleil. Alors que l'obscurité finissait de se dissiper, il ferma les yeux et lança ses pouvoirs en quête de la cause de son réveil précoce. Il ne trouva rien. Pourtant quelque chose approchait d'eux, il le savait. Se détournant de l'est, il sonda ce qui restait de la nuit agonisante. Une ombre planait juste au